Alors, mesdames et messieurs, je tiens à vous saluer et à vous accueillir en vous remerciant d'être si nombreux ce soir pour ce dialogue avec Jean-Pierre Vincent. Je tiens absolument à remercier d'une part Denis Mola, la librairie Mola, et Madame Catherine Marnas et le TNBA de m'avoir fait confiance pour dialoguer avec une figure du théâtre français et européen. Et je voudrais dire, sans être grandiloquent, que je suis très ému. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer, mais je suis très ému parce que je suis un spectateur de longue date. Et quand on m'a sollicité pour dialoguer avec vous, je me suis souvenu des deux premières mises en scène de vous que j'ai vues. C'était en 71 et en 72 au Festival d'Avignon. Capitaine Chal, Capitaine Esso, un texte de Serge Rezvani. Et en 72, dans La jungle des villes de Bertolt Brecht. Et pour moi...
Vous étiez tout petit.
J'étais adolescent, tout à fait. Et pour faire transition avec la mise en scène que vous allez nous présenter demain, j'étais de ceux qui attendaient Godot. Alors j'étais de ceux qui attendaient Godot dans la mesure où, par exemple, le groupe politique auquel j'appartenais à Bordeaux, très spécifique, avait à l'université de Bordeaux... maintenant Bordeaux-Montaigne, invité pour une soirée de soutien une compagnie, Fartoff et Belcher, nous sommes dans Samuel Beckett, pour une mise en scène de Godot. Et nous étions nombreux, rétrospectivement, à attendre Godot, c'est-à-dire le grand soir, c'était pas Dieu, mais le grand soir. Et il me semble que, quelques décennies plus tard, la manière dont vous avez lu le Godot de Samuel Beckett... Je n'ai pas vu votre mise en scène, mais c'est une manière qui, je dirais, d'une manière symptomale, nous dit que les humains que nous sommes faits pour attendre et non pas pour nous désespérer, parce que le nihilisme ne prend pas sur nous.
Non, je ne pense pas que nous sommes faits pour attendre. On est bien forcés. Au fond, qu'est-ce qu'il attendait, Samuel Beckett? Depuis qu'il était né, il attendait de mourir. Et il se demandait pourquoi ça n'arrivait pas. Pourquoi il n'avait pas le courage. Et il a fait des tas de choses dans sa vie, comme nous tous, pour s'occuper, en l'attendant. Ça, c'est un des aspects. C'est une des clés d'entrée de la pièce. Elle est, vous savez, il y a plusieurs clés d'entrée. Il y a plusieurs sources d'inspiration profonde, qui vont de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une sorte de situation existentielle assez banale, il faut le dire, de Samuel Beckett, encore que lui la vivait de façon consciente et très aiguë. Il y a par exemple la piste de la traversée de la France à pied avec sa femme, fuyant la Gestapo, il a failli se faire arrêter à Paris. Il était entré dans un réseau de résistance qui a été dénoncé. Il a dû s'enfuir à pied. Il a traversé la France à pied avec sa femme, donc mal au pied. Route de campagne avec arbres. Toute cette source d'inspiration est là. Une autre clé d'entrée, c'est la catastrophe. Ce qui vient d'arriver, il commence à écrire cette pièce en 1948, donc il l'a prémédité un peu avant. Et il vient de se produire Hiroshima d'une part et l'ouverture des camps en 1945 d'autre part. Un 20e siècle qui a produit une catastrophe qui veut dire plus jamais de la même façon après. Quoi. C'est-à-dire... là, je m'exprime très mal, mais plus rien ne peut être comme avant. Après Hiroshima et Auschwitz, plus rien ne peut être comme avant. On peut continuer à vivre, nous, les animaux humains. On mange, on va en vacances, on fait l'amour, on travaille, on se révolte, on fait des tas de choses. Mais c'est plus la même chose. Et ça commence à se sentir. Donc, en fait, ce décor qu'il décrit, qu'il a vidé de toutes les anecdotes possibles du théâtre qu'il y avait avant, et du théâtre bourgeois, plus de salons, plus de réalisme bourgeois, plus de brechtien, plus rien. Il n'y a plus rien. L'espace a été dévasté par quelque chose.
Il n'y a rien à faire.
Et c'est la première réplique. Rien à faire. Elle a double sens, évidemment. Le gars est en train d'essayer de retirer ses chaussures. Il n'y arrive pas. Il souffre. Un être humain seul devant le ciel souffre. De retirer ses chaussures, il n'y arrive pas. Son copain arrive et manifestement, il n'arrive pas à faire pipi. Et il lui dit, rien à faire. J'ai longtemps cru à cette idée, mais je me disais toujours, sois raisonnable, il y a quelque chose à faire. Et voilà, ils sont là, il n'y a rien à faire que éventuellement de se pendre. Ils n'en ont pas le courage, ils en ont l'idée, parce qu'ils ont un arbre. Mais l'arbre est hors de portée, et ils n'ont rien pour y grimper. Et donc, il y a ce voyage avec sa femme à travers la France, dans un pays écrit au moment après une catastrophe. Et nous, évidemment, je crois que le sentiment nouveau que j'ai eu, qui m'a amené vers la pièce, alors que tout en ayant lu et en respectant beaucoup Samuel Beckett, je n'en avais jamais eu l'idée avant il y a 3 ans, c'est que lui a écrit ça après la catastrophe, et nous sommes avant la catastrophe, que nous sommes en train de préparer studieusement.
C'est dans le dossier de presse que j'ai pu lire, et d'ailleurs que votre public peut télécharger sur le site du TNBA, votre référence appuyée au philosophe autrichien Anders.
Oui. Alors, c'est une découverte de hasard. Vous savez, il y a des livres qu'on découvre. Je viens de longer pour la première fois la librairie Mola. C'est quand même un truc extravagant. J'ai jamais vu ça. On dirait qu'il y a tous les livres possibles et imaginables. Bon. Et moi, j'ai découvert des pièces que j'ai montées, comme Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, qu'on a joué ici à Bordeaux, au Berlioz, à l'Auditorium. Il y a des livres que j'ai découverts en feuilletant. Et un jour, je vois L'obsolescence de l'homme, Günther Anders, tome 1. Assez épais, je feuillette, je constate que c'est pas trop difficile à lire apparemment, et que ça correspond, c'était il y a une dizaine d'années, ça correspond à un sentiment que j'ai, qui me vient de plus en plus, que nous sommes obsolescents, que nous sommes une espèce obsolescente. Nous avons produit, par les progrès même de l'industrie, de la science et du capitalisme, nous avons produit notre obsolescence. Nous nous sommes produits comme être obsolescents. C'est ça que raconte ce premier tome. Premier tome écrit en 1955, par là, et traduit en français en 1999. C'est fou, non, quand même. 40 ans plus tard. Le deuxième tome, écrit en 1978, par là, a été traduit en 2005. Et là, ça fourmille, c'est des petits essais, très courts, qui disent l'obsolescence de la famille, l'obsolescence de la liberté, l'obsolescence du communisme, l'obsolescence du travail, l'obsolescence, etc., etc. Et je l'avais lu un peu en zigzag. J'avais pas tout lu. Et puis j'avais été opéré, j'avais une période de convalescence. Je farfouille dans les livres, je me dis, il faut bien que je me remette à lire quand même. Et je tombe sur le tome 1. Et je découvre, page 170, je n'étais pas arrivé jusque-là, bon, qu'il y a un essai sur En attendant Godot. Et je me dis, si ce mec écrit sur En attendant Godot, si c'est dérangé pour ça, ça date de 1956, c'est-à-dire 3 ans après la mise en scène de Roger Blin, la création. Et ça doit être intéressant. Et alors là, je découvre un truc. Je me suis précipité pour relire la pièce et j'ai lu une pièce absolument, mais ne correspondant absolument pas à cette sorte de mythologie tragico-métaphysico-catastrophique dont on a affublé Beckett, parfois avec sa propre complicité, il faut le dire, parce que c'était son image de marque. Le visage ridé, le malheur, etc. Et il avait un sentiment très douloureux du monde, c'est vrai. Mais il avait aussi un humour énorme d'Irlandais de comiques anglais, des choses comme ça. Et donc, j'ai découvert une pièce très vivante, surtout, en plus, ce qui m'a très étonné, c'est que je trouvais qu'il y avait des tas de petites séquences, que ce n'était pas un long couloir noir auquel, finalement, au bout d'une demi-heure, plus personne ne comprend rien. Hein. Le nombre de gens qui se sont emmerdés pendant 50 ans, poliment et culturellement, en voyant cette pièce, c'est incroyable. Parce que maintenant, ils me le disent. Quand ils voient le spectacle qu'on a fait, qui n'est pas un spectacle fait exprès pour rire, pas du tout. On rit par moments, mais il y a surtout ce qui est très important pour Beckett et qui est très important ici, dans ses romans, dans ses poèmes, c'est le silence. Il y a d'abord le silence et les paroles luttent. En vain espèrent-ils contre le silence. Il n'y a rien. Alors, non seulement il n'y a rien à faire, mais comme on dit à Marseille, il n'y a rien là. L'expression polysémique marseillaise, il n'y a rien là, ça veut dire qu'il y a plein de choses, et ça veut dire aussi qu'il n'y a rien. Voilà. Et voilà, et c'est la version irlandaise de cette fameuse expression marseillaise.
Alors, vous m'avez prévenu en disant que peut-être je prendrais les coups. Hein.
Ah oui, allez-y. Hein.
Mais je vais en rendre, je vais en rendre aussi. Nous allons voir, le public bordelais va voir votre mise en scène à compter de demain et jusqu'à samedi. Nous en connaissons ce que la presse peut en dire, ce que nous avons pu lire concernant vos notes de mise en scène, votre préparation. Je crois que vous m'accorderez, vous l'avez suggéré, que pendant des décennies, on a tiré du côté de la métaphysique la pièce de Samuel Beckett. On a remarqué, ce qui sans doute est tout à fait vrai, que Godot, c'est God not, la contraction de God not, donc Dieu pas, Godot. On a beaucoup insisté sur la solitude de l'homme, la solitude des personnages, sur la
dévastation. Ils ne sont jamais seuls, alors.
Voilà, exactement. Hein.
Bon, mais
c'est le paradoxe, hein. Ils ne sont jamais seuls, mais on a écrit des bouquins entiers sur la solitude de l'homme après 1945. Bon. Et il me semble, et vous l'avez dit, que sans nier ces points d'entrée dans le texte, vous avez voulu, aujourd'hui, en 2014-2015, vous avez voulu donner la lecture que vous faites de ce texte. Et une lecture qui ne trahit pas Beckett, parce que vous semblez tirer votre mise en scène du côté du burlesque, mais Beckett était un admirateur de Buster Keaton.
La mise en scène la plus drôle qu'il y a eu avant la nôtre, en attendant Godot, c'est celle de Beckett lui-même, en Allemagne. La mise en scène était d'une drôlerie considérable. Et alors, je ne voulais pas le dire du tout, mais contrairement à la religion qui entoure ce texte, j'ai fait des coupes. J'ai coupé des trucs qui étaient un peu has-been, qui étaient un peu démodés, qui étaient un peu trop années 50, un peu trop ionesquisants, des choses bêtes, des blagues qui font plus rire, par exemple. Qui faisait rire mes parents en 1950, mais qui font plus rire, enfin, et qui évidemment pourrait pénaliser énormément le cœur de la pièce. Et j'étais très content et soulagé parce que un des acteurs du spectacle, un ami en Allemagne, qui s'est procuré la brochure de répétition de Beckett, c'est les mêmes coupes. En 75, c'est-à-dire 20 ans après, il s'est rendu compte qu'il y avait des passages qui l'emmerdaient. C'est tout. Et donc, lui, il était le seul à avoir le droit à l'époque. Et maintenant, il y a un petit passage qui est un peu célèbre. J'ai vu 2-3 spectateurs qui ont repéré qu'il n'y était pas. Mais c'est une mauvaise blague. C'est le Knook. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu quelques fois la pièce. Le Knook, c'est idiot. Enfin, vraiment, on perd son temps avec ça. Il y a une demi-page sur le Knook. Maintenant, on a des Knooks. Et pensez au Schmurz de Boris Vian. Pensez à tous ces onomatopées blagueurs qu'il y avait dans le Quartier Latin en 1950. C'est ça aussi. Hein. Mais lui, il a commencé déjà à retirer des choses dès le départ. Quand il a commencé à écrire la pièce, Estragon ne s'appelait pas Estragon. Estragon s'appelait Lévi. Lévi et Vladimir, c'est pas la même chose qu'Estragon et Vladimir, en 1948. Un lecteur allemand de la pièce et d'un certain nombre de renseignements qu'il avait eus sur la vie de Beckett, sur ses conversations pendant qu'il écrivait la pièce, disait que c'était peut-être au départ un couple de juifs sur le plateau de Valensole attendant un passeur pour l'Italie. Et il y avait une grosse blague qu'il a retirée sur les comics staliniens. Toutes ces allusions à l'époque, tout ce qui pouvait faire que les gens se raccrochent à une anecdote, politique ou pas politique, il l'a retiré. La seule chose qui reste de réel dans la pièce, d'appel au réel, c'est les vendanges en Roussillon chez Monsieur Bonelli. La famille Bonelli existe encore, c'est la cinquième génération.
Ce sont des viticulteurs.
Ils vendent leur vin au marché de Coussolet le dimanche, je les connais, ils sont venus voir le spectacle à Marseille. Et la maison qu'occupaient Beckett et sa femme dans le village de Roussillon est à vendre, si ça vous intéresse. C'est une petite maison de village, vous savez, comme en Provence, comme ça, une pièce au rez-de-chaussée, une pièce au premier. La maison est à vendre en ce moment. Vous voyez sur Google.
Si je me trompe, vous me corrigerez. Beckett et son épouse, enfin, à l'époque, ils n'étaient pas mariés, sa compagne,
Peut-être, oui.
Pareil. Était à Roussillon en 43, hein, c'est cela.
Oui.
En 43.
Oui. Ben oui, parce qu'ils ont mis 6 mois. Je pense qu'ils ont dû plutôt partir vers le sud-ouest. Et puis, alors, je ne sais pas s'ils sont passés par l'Ariège. Parce qu'à un moment, Estragon veut absolument aller en Ariège. Et je n'ai pas vu de traces là-dessus. Roussillon, ça, c'est vrai. Les Bonelli, je les connais. Mais l'Ariège, je n'ai pas de...
Alors, si vous me permettez, je voudrais qu'on revienne sur la pièce et sur les lectures que l'on peut produire de cette œuvre. Les deux personnages, Estragon et Vladimir, donc à l'origine, Estragon, c'est Lévi. Vladimir, on peut entendre Vladimir Ilitch, oui. Hein, par exemple. C'est tout à fait possible. Bon, ils sont là. C'est eux qui occupent le plateau le plus.
Ah bah, ils n'en sortent pas.
Ils n'en sortent pas.
Ou souffrent vraiment
de manière fortuite.
De façon fugace,
voilà,
oui.
Exactement. Et puis, il y a un autre couple qui va apparaître, c'est Pozzo et Lucky. Et il me semble que l'on peut aujourd'hui lire cette duplication, cette répétition hein, de deux couples. Estragon et Vladimir contemplent les débris des temps passés. La pièce est écrite en 48, elle est publiée en 52, montée en 53. Le monde a été anéanti, le vieux monde a été anéanti à Hiroshima et à Dachau. Mm-hmm. Et grosso modo, Pozzo et Lucky, c'est-à-dire ce sont le reliquat de la domination ancienne. Et à bien des égards, Vladimir et Estragon tournent autour d'eux, les contemplent, les interrogent.
Ils sont très serviles.
Voilà.
En fait, c'est grosso modo ce qu'explique Günther Anders. C'est qu'ils sont tous les deux dans un monde sans temps, sans espace. Alors, je vous raconterai tout à l'heure des choses qui me sont arrivées après les répétitions sur la physique quantique. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que c'est une grande découverte et ce n'est pas un hasard si en plus j'ai découvert tout ça au moment de la première de la pièce, on avait passé les répétitions. Bon. Mais ils sont 100 ans. Ou comme dit un autre livre très récent qui vient de sortir de Günther Anders, ce sont des hommes sans monde. Les hommes qui fabriquent le monde aujourd'hui. Le monde n'est pas à eux. Ils sont dans un monde qu'ils fabriquent et qui ne leur appartient pas. Ils fabriquent le monde des gens plus riches. De nous, quoi. Et ces deux-là sont dans un monde vide et sans temps. C'est la catastrophe a annulé ces notions-là. Même cette mort qui n'arrive pas, parce que la mort est le témoin du temps. La naissance et la mort sont les témoins qu'il existe du temps. La physique quantique dit maintenant que non. Mais bon, passons. Et arrive, soudain, non pas ce Godot, ce Godnot, ce faux dieu, ce type qui pourrait les sauver, c'est-à-dire les calmer, c'est-à-dire leur permettre de dormir dans le foin, à lui et sa femme marchant dans la France et tout ça et tout ça. Et arrive le fantôme actif du maître et de l'esclave. Le maître absolu et l'esclave absolu. L'esclave étant manifestement un intellectuel réduit en esclavage pendant le grand conflit, pendant le nettoyage de cerveau de la Deuxième Guerre mondiale. Il était un grand intellectuel ou un poète ou je ne sais quoi. D'ailleurs, Pozzo le dit plusieurs fois, c'est pas son métier, il porte comme un porc, etc. Et il lui dit de penser et l'autre ne retrouve plus les mots pour penser. Alors, il y a un devenir Alzheimer de tous les personnages au fil du premier acte et surtout au deuxième acte. Ils ne se souviennent plus de rien. Lucky ne se souvient plus de l'admirable discours qu'il tenait en 1939. Voilà.
Pour penser, il a besoin de son chapeau. C'est un chapeau melon.
Alors, on va parler des chapeaux melons. C'est une autre entrée dans la pièce, ça. Donc, le fantôme du maître et de l'esclave, c'est-à-dire, je suppose que dans son intuition, à ce moment-là, Beckett dit « Oui, ça existera encore quelques décennies, cette histoire de maître et d'esclave, mais ça n'a plus de sens. » Ça n'a plus de sens. Et du coup, par exemple, quand ils reviennent au deuxième acte, Pozzo et Lucky s'arrêtent, Pozzo se cogne et tombe. Vladimir veut relever Pozzo, il tombe et ne peut plus se relever. Estragon veut relever Vladimir, il tombe et on a 4 morts sur le plateau. Et ça, je n'avais jamais vu quand j'ai été voir Godot. Peut-être que je dormais déjà, mais aussi parce que tous les décors étaient noirs, avec des costumes noirs, dans des décors noirs. Et nous, on a fait 15 maquettes de décors. Et alors, je voulais reprendre un truc que vous avez dit tout à l'heure, que je vais vous donner ma lecture, etc. Non, je n'ai pas de lecture. Je l'ai lu. Je l'ai lu, j'ai tout lu, le moindre mot. Et par exemple, on a trouvé la solution pour le décor, qu'à un moment, Estragon dit « J'ai passé ma putain de vie dans les sables. Je n'en ai jamais bougé. » Donc la route est en sable. Et du coup, le sable est clair. Et ça donne une sorte de vie, de vibration à la pièce que vraiment j'avais jamais vue. Mais ça n'est pas une chose que j'ai mijotée dans ma créativité profonde 8 mois avant. Je ne savais pas ce qu'on allait faire avec les acteurs. J'avais noté tout un spectacle, mais comme je suis en train de le faire pour le prochain spectacle. Mais le jour de la première répétition, je n'en dis pas un mot aux acteurs. J'attends que la créativité des acteurs vienne. Alors, je les aide après à s'approcher de ce que je pense être une vérité du texte. Mais c'est une façon simplement d'apprendre à lire. Mais pas de se rengorger d'une lecture qu'on aurait faite, des idées qu'on a. On est très créatif, mais simplement au service d'une matière admirable, de génie comme ça. C'était sa première pièce. C'est une pièce de débutant. Vous imaginez le génie, par exemple, le système des entrées et sorties. Comment il détruit tout le théâtre antérieur, mais il garde l'essentiel de ce qu'il y a dans un théâtre, c'est-à-dire une scène, un public, une coulisse à gauche, une coulisse à droite. Et ça rentre et ça sort, comme ça rentre et ça sort dans l'écran de Buster Keaton, qui a une sorte de gymnastique, d'acrobatique, de balistique dans l'écran, Buster Keaton. Et c'est la même chose, là, dans En attendant Godot. Et c'est la même chose en fin de partie. Et c'est la même chose dans toutes les petites pièces qui sont des pièces expérimentales. Oui, Quad, etc. C'est toujours une histoire d'espace, aussi.
Je ne vais pas vous contredire, mais je pense qu'une partie des propos que vous venez de tenir sont liés à votre modestie. Vous avez l'habitude de dire que vous êtes de go-between, vous êtes un passeur, vous êtes un artiste-interprète. Souvent, vous employez cette expression, vous dites « je suis un artiste-interprète, je ne suis pas un créateur ».
Je le suis de plus en plus.
Voilà. Je le dis pour une partie de l'assistance qui peut-être oui. Vous connaît moins bien. Et, vous êtes de ces personnes, de ces figures de théâtre qui s'empare des textes avec beaucoup, beaucoup de modestie.
Il y a 20 ans, je pensais que j'y étais arrivé. Et je fais des progrès à chaque spectacle. Alors je me dis qu'il y a 20 ans, j'y étais pas du tout arrivé. Je ramenais encore ma fraise. C'est par exemple pour nous, avec Jean-Paul Chambas qui fait les décors, qui n'est pas un décorateur de théâtre, qui est un peintre, lui, il a des idées qui ne viennent pas du tout du théâtre. Alors, même des idées modestes, dans cette pièce-là, il n'en fallait pas. Par exemple, c'est un gersois. Il va en vacances dans la maison de la famille à Osgore, je ne sais pas où, et il se baladait le long de la côte, dans les pins et tout ça, et il voit, alors il y avait du sable, il y avait des arbres dépiautés, et il voit une vieille route de la Wehrmacht qui allait vers les blocos, vous savez, ils avaient fait des chemins dans la forêt. Et puis cette route est complètement abîmée, le béton un peu pourri, le fer à béton rouillé qui dépasse, etc. Il n'y avait rien dans la maquette, on fait cette route de sable et on met ce truc-là. Mais on a hurlé, c'était 1000 fois trop. Parce que ça privilégiait une entrée par rapport à toutes les autres. C'était, ah oui, c'est après les camps de concentration, c'est après la Seconde Guerre mondiale, oui, bien sûr qu'il y a quelque chose d'historique alors qu'il nie l'histoire et tout ça. Ben, non, il faut laisser aux gens la capacité et le temps, grâce au silence, de faire leur compte avec tout ça. Parce qu'on s'en rend compte de toutes ces entrées possibles, y compris aussi celle de la Divine Comédie de Dante. Qui rôde là-dedans un peu tout le temps, hein, et d'autres poètes. Ils connaissaient la Divine Comédie en italien presque par cœur. Hein. En tout cas, les trois quarts. Hein. Beckett, vous pouvez la réciter. Hein. Et non, c'est pas de la modestie. Je pense que c'est comme... je sais plus qui disait ça. La modestie proclamée, c'est une forme de l'orgueil. Les gens qui sont trop modestes sont des gens très orgueilleux. Et donc je le proclame pas non plus. Non, je suis pas modeste. Je pense à vous quand je répète. Et je pense de plus en plus d'ailleurs au jeune public. Comment les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent accepter que cette pièce s'approche d'eux ? Parce qu'elle s'approche d'eux. Et ça marche. En répétition, bon, j'ai travaillé pendant un an et demi, deux ans sur le texte. Je ne le connais pas par cœur, mais j'ai épluché chaque mot, j'ai épluché chaque raison qu'une réplique s'arrête et que l'autre commence. Pourquoi quelqu'un s'arrête de parler ? Pourquoi l'autre lui répond ? Pourquoi quelqu'un parle pendant 15 lignes et que l'autre ne l'interrompt pas ? Des choses comme ça, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Et chaque auteur a son style par rapport à ça. Shakespeare, c'est pas la même chose que Thomas Bernhardt. D'ailleurs, Thomas Bernhardt, on ne l'interrompt pas. J'étudie ça pendant... Et puis, une fois que j'ai fait le décor et costume avec mon équipe, j'ai entretenu. Là, par exemple, en ce moment... Notre prochain spectacle démarrera mi-septembre au Théâtre National de Strasbourg, en 2016. J'entretiens tous les trois mois les acteurs avec des mails de 15 pages racontant, suivant les dessins de la pièce, petit à petit, ça se précise et tout ça, mais aucune indication de jeu. Aucune indication de ce qu'il y a à faire réellement, parce que c'est eux qui vont le faire. Bon, c'est une nouvelle étape. Bon. Et puis, on se rassemble dans une sorte d'énergie progressivement unique. Dans le meilleur des cas, ça peut aussi foirer une fois de temps en temps. Donc, j'ai pas du tout l'impression ni de me brimer. Je vous dis, on a fait 15 maquettes de décors. Avec un bateau en ruine, avec des tas de trucs. Et c'était toujours trop bavard. Et la pièce est très sévère, si vous êtes honnête intellectuellement. avec elle. Elle est très sévère. Elle vous renvoie votre petitesse dans pleine figure. Hein.
Une question pas tout à fait anecdotique. Alors, l'arbre est un arbre, ce n'est pas un réverbère?
Oui, non, ça n'est pas un réverbère, ça n'est pas une potence, ça n'est pas une croix du Christ, ça n'est pas un transformateur électrique, comme j'ai vu. C'est un arbre. Il y a route à la campagne avec arbre. Et à cet arbre, on parle. Cet arbre est censé être mort. Au deuxième acte, il a trois feuilles. Alors, c'est l'arbre de vie qui est mort. Enfin, pas tout à fait, dirait-on. Mais c'est l'arbre de vie du paradis qui est mort. God not. Voilà. Et qui sert à rien. Il sert à rien puisqu'on ne peut pas se pendre.
Non, la branche est trop fragile, peut-être.
Oui, puis la ceinture d'estragon qu'il propose pour se pendre casse. Bon. Enfin, je vois. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. Alors, ça, je peux vous raconter tout. Mais je vous le raconte dans le désordre. Alors.
Justement, sans raconter l'histoire, parce que bon, il y a peut-être une succession et des répétitions de scénettes plutôt qu'une intrigue au sens traditionnel du terme. Ces deux personnages, d'Estragon et Vladimir, pourrait-on dire qu'ils sont fatigués, mais non pas épuisés?
C'est très intéressant comme question. Ils sont... ils sont increvables comme nous tous. On est increvables. Mais même, ça dépasse les bornes. En ce moment, ça dépasse les bornes. L'être humain, mais aussi les animaux. L'être humain en tant qu'animal, mais même en tant que collectivité, en tant que groupe, est increvable. C'est-à-dire que moi, je suis d'un pessimisme abominable sur notre devenir dans les trois prochaines décennies. Abominable. Je peux vous démoraliser. Et en même temps, l'humanité s'est toujours relevée de ça. Mais, alors j'en arrive à la physique quantique. Nous sommes une espèce éphémère. Nous sommes parmi toutes les espèces d'animaux qui ont vécu sur Terre, l'humanité est une espèce éphémère. Nous avons quitté le lac Victoria il y a 100 000 ans, sauf, évidemment, il y en a une qui était partie avant, c'était Nadine Morano. Parce que c'est la seule blanche sur le lac Victoria et elle savait où il fallait qu'elle aille. Elle y est allée. Alors, on était tous noirs et on est parti il y a 100 000 ans du lac Victoria. Il y a une espèce humaine qui est morte en route, c'est les Néandertaliens, il y a 30 000 ans. Même dans notre ère chrétienne, il y en a deux, des espèces humaines, qui se sont laissées mourir, qui sont mortes d'épuisement, de plus rien à faire, plus rien à dire, c'est les Crétois et les Incas. Et donc, étant donné la façon dont nous nous comportons globalisé avec la planète, nous risquons fort d'être les prochains. Le sapiens sapiens, ce n'est pas éternel. La tortue n'a pas changé depuis 300 millions d'années. Nous, on a 100 000 ans. Alors, oui, je vous parle un petit peu de la physique quantique parce que ça vient du dernier livre de Carlo Rovelli. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. Carlo Rovelli est un Italien qui vit à Cassis, près de Marseille, et qui est prof de physique à Marseille. Et vers la fin des répétitions, je lisais le monde des livres et je vois qu'il y a un livre de ce garçon qui sort et dont on dit que c'est le meilleur vulgarisateur de physique quantique vivant. Moi, physique quantique, mais vraiment, les quantas et tout ça, je ne voulais même pas essayer de comprendre. Enfin, c'était latin grec, pour moi, voilà, c'était les maths et la physique, j'ignorais ce continent-là. Et donc je me suis dit, si c'est le meilleur vulgarisateur, j'ai un peu de temps, pourquoi ne pas y aller? Donc ce livre s'appelle « Par-delà le visible », qui est sorti il y a 7-8 mois, et qui raconte l'histoire de la physique depuis Anaximandre de Milet Démocrite, le gars qui a découvert quand même que nous étions faits d'atomes, avant le grand siècle athénien, il l'a découvert en fait en observant très longuement des roues de charrette. Les roues de charrette s'usent, mais on ne voit rien en tomber. C'est-à-dire, il s'est dit, il y a des particules microscopiques qui sont en delà de toutes les possibilités, en deçà de toutes les possibilités de l'œil humain, et nous sommes faits de tous ces petits minuscules petits grains, et tout est fait de minuscules petits grains. Et il y a 2600 ans. Et puis il reparcourt tout, enfin, avec Lucrèce, la nature des choses, la destruction de toute l'œuvre de Démocrite par l'Église chrétienne au IIe siècle, parce que il était clair qu'il avait découvert que la Terre tournait autour du Soleil, que la Terre était ronde, que tout ça. Tous les livres ont été détruits dans toutes les bibliothèques de la Méditerranée. Bon. Puis on passe alors après à Galilée, Copernic, Newton. On arrive alors... On monte à l'Himalaya avec Einstein, et puis il y a les aventures de la physique du XXe siècle, la suite d'Einstein, avec de nombreux physiciens et mathématiciens surtout, qui nous amènent à la théorie des quantas, à la nature des quantas, qui sont si importants, parce que là, par exemple, on ne m'entendrait pas s'il n'y avait pas les quantas, il n'y aurait pas de portable, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les équations, parce que c'est des équations mathématiques au départ, des physiciens, se sont révélées concrètes, véritables, ont eu des conséquences dans la vie matérielle. Et les mêmes physiciens ne comprennent pas pourquoi. Leurs équations sont justes et donnent des conséquences matérielles. Alors, je vous laisse, vous allez vous précipiter dans la librairie à côté, parce qu'il vient de publier un plus petit livre, qui est un peu tiré du premier, qui est un opuscule, qui s'appelle « Sept brèves leçons de physique ». Karl Rovell, il c'est chez Odile Jacob, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est un résumé qui finit par un chapitre qui s'appelle « Nous ». Et où il dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes une espèce éphémère par rapport aux tortues. Voilà. Qu'il faut qu'on fasse très attention à ça pour les générations qui suivent.
Alors j'imagine que vous n'avez pas coupé ce passage qui est à la fin de « En attendant Godot ». Ces trois répliques de Vladimir et de Pozzo. Vladimir dit « Nous sommes là ». Ouais. Je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais dites la réplique d'avant.
À moi.
À moi.
Nous sommes là. Pozzo, oui. Qui êtes-vous? Nous sommes des hommes.
Oui.
Et il me semble, en tout cas, c'est une petite interprétation que je risque, c'est que dans les moyens très minimalistes que s'est donné Samuel Beckett, sa volonté d'ôter la référence à l'histoire et à l'histoire contemporaine, il vise à produire sur scène des images, et des images qui puissent parler aux hommes et aux femmes des années 50 comme aux femmes d'aujourd'hui. Et que je crois que c'est ainsi qu'on peut, sans forcer le texte et sans le gauchir, lire la pièce et voir une mise en scène de En attendant Godot. S'il y avait eu un texte lesté de références historiques, il y a de fortes chances aujourd'hui que nous aurions boudé un peu notre plaisir.
Oui, et alors on aurait une pièce de Brecht.
C'est ça.
Mais, chose curieuse, le dernier mois de la vie de Brecht, avant sa mort, il avait dans les mains En attendant Godot, et il prenait des notes dessus pour faire une adaptation. On en a des vagues idées parce que les gens ont décrypté ce qu'il y avait dans les marges et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en aurait fait et je ne sais surtout pas si Beckett l'aurait laissé faire une adaptation. On peut toujours adapter Shakespeare ou Molière. Bon, ils se sont remués suffisamment de fois dans leur tombe et ils ne le feront plus. Alors que Beckett était vivant et jeune et très actif. Donc, je ne sais pas comment ça serait passé, mais Brecht avait entendu l'avertissement de Beckett. Parce que quand il dit, alors quand il dit nous sommes des hommes, ils sont tous les quatre par terre, dans l'impossibilité de se relever. Donc peut-être, alors c'est aussi une image, bon, il a été évidemment totalement abasourdi comme tout le monde, pas tout à fait comme tout le monde, par la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout ce qui l'a beaucoup impressionné dans sa vie, parce qu'il était très jeune, c'est la boucherie mondiale de la Première Guerre mondiale. Et ces quatre corps par terre, parlant comme ça, comme des blessés sur, entre deux tranchées de la guerre de 14, enfin, ou aussi comme dans un dortoir de collège irlandais, aussi, il y a des images comme ça qui viennent. Et donc, si je reviens aussi à cette réplique-là, c'est bien que quand il dit « Qui êtes-vous ? Nous sommes des hommes », c'est « Nous sommes des hommes », c'est déjà ça. « Nous sommes encore des hommes ». Il y a plusieurs adverbes qui peuvent entourer ceux des hommes. Et il n'y en a pas dans le texte. Nous sommes des hommes, puis c'est tout. Il y a un moment de l'histoire où il a la sensation qu'il n'y a plus grand-chose à dire d'autre que ça. Et qu'il faut qu'on prenne, nous, nos responsabilités d'hommes, au sens générique, d'hommes et de femmes.
Alors, je suis lecteur de physique quantique, comme vous, et je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Si le metteur en scène qui a monté dans la jungle de ville de Bertolt Brecht en 72 s'intéresse aujourd'hui à Beckett et à En attendant Godot. Parce que dans la jungle des villes, en traduction française, il y a cette phrase de Brecht, un être humain a beaucoup de possibilités. Oui. Et il me semble que cette phrase, elle fait écho avec le texte de Beckett. Et avec ce que vous venez de dire,
oui, alors,
parce que nous sommes humains et increvables.
Ouais, c'est en fait à la fin de la deuxième scène, je crois, de la jungle des villes, où il s'est passé un certain nombre de violences du type des violences Chicago, etc., des violences de gangsters, des vraies intimidations, des choses comme ça. Et le vieux chinois dit « un homme a beaucoup de possibilités ». Sous-entendu, beaucoup trop de possibilités. C'est-à-dire, est capable de supporter trop de choses. On a joué la semaine dernière à Namur. Donc je rentrais tard. Et d'habitude, quand je rentre tard dans la chambre d'hôtel, je mets LCI ou ITélé, je regarde les informations. Là, il n'y avait pas ITélé ni LCI. Et donc, j'ai regardé TV5 Monde à 1h du matin. Et j'ai vu, il y a une émission qui s'appelle Cours, comme court-métrage, un film africain, en noir et blanc, même filmé avec un téléphone ou filmé mal exprès, sur un bidonville dans l'Afrique de l'Est, manifestement, parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un noir qui avait une allure un peu asiate et tout ça, sans mots, sans rien, la pauvreté absolue. Les gosses vont chercher dans la ville, en mendiant 50 grammes de riz, les trois gosses, quatre gosses, ils amènent leurs 50 grammes de riz, on fait cuire le riz, on mange le riz, on ne dit rien. Et les gosses repartent chercher du riz. Et puis, il y a une colline où il y a des mères en boubou qui passent avec leurs lardons, qui courent ou qui ne courent pas, qui ne veulent pas courir, ou tout ça, de loin. J'ai regardé ça pendant trois quarts d'heure. Et les informations qu'on peut avoir, si on cherche bien, sont terrifiantes, en fait, sur le nombre de misères que les humains sont capables d'endurer. Alors, évidemment, parlons même pas des gens qui sont obligés de fuir en courant leur propre pays parce qu'il y a des bombes partout et qu'il y a une alliance entre la bêtise et les bombes. Bon. On supporte trop. Et puis alors, il y a eu, Il y a eu, au début du XXe siècle, dans les premières décennies, un moment où la partie souffrante de l'humanité s'est révoltée, s'est organisée. Et puis, elle a un peu raté son coup avec l'Union soviétique, il faut bien dire, parce qu'elle est devenue elle-même une productrice de malheur. Et puis, étant donné l'échec de cette situation-là, de l'Union soviétique et de ce qu'il y avait autour, tout le monde est découragé par rapport à cette possibilité-là. Il va falloir forcément, et je pense que l'humanité est capable de ça, que ça passe par autre chose. Là, par exemple, je me suis acheté, là, vous pouvez le trouver aussi à côté, ça c'est sûr, avant-hier, je tombe sur alors c'est vraiment un petit opuscule de Simone Weil, la philosophe des années 30, qui s'appelle « Note sur la suppression générale des partis politiques ». C'était une philosophe qui était très impliquée dans le syndicalisme à l'époque, dans les années 30. Je ne peux pas dire que je ferais spontanément confiance aux syndicats français pour prendre la place des partis politiques, étant donné qu'eux-mêmes se sont marchés sur les pieds, marchés sur les vêtements, enfin tout ça, se sont pris les pieds dans leurs vêtements. Et donc il faut autre chose. Voilà, il faut autre chose. Alors, évidemment que la vie associative est toute petite par rapport à la finance mondiale, qui ne sait elle-même même pas qui elle est. La finance mondiale, c'est personne. C'est des yachts en Méditerranée. Dans chaque creek de Corse, vous avez un yacht à 3 étages, personnel, privé. Et c'est de là que les ordinateurs font le boulot. Voilà, c'est mon entreprise de découragement, je le vois, commence à porter. Mais vous êtes increvable.
Mais je trouve que précisément, vous ne nous désespérez pas. Jadis, on disait qu'il ne fallait pas désespérer Biancourt, et vous n'êtes absolument pas dans cette démarche-là.
Il n'y a que la vérité qui peut nous permettre de nous battre. Hein.
Parce que, justement, si l'on prend le texte avec respect, hein, non pas pour en faire une icône, mais simplement parce que c'est un texte qui nous parle, il se termine ainsi. Estragon, si on se quittait, ça irait peut-être mieux. Vladimir, on se pendra demain. Un temps. À moins que Godot ne vienne. Estragon, et s'il vient, Vladimir, nous serons sauvés.
Silence.
Didascalie, Vladimir enlève son chapeau, celui de Lucky, regarde dedans, il passe la main, le secoue, le remet. Estragon, alors on y va? Vladimir, relève ton pantalon. Estragon, comment? Vladimir, relève ton pantalon.
J'enlève mon pantalon.
Relève ton pantalon. C'est vrai. Il relève son pantalon. Silence. Vladimir. Alors on y va. Estragon. Allons-y. Il ne bouge pas. Bon, aujourd'hui en 2015, je pense que nous pouvons comprendre le « il ne bouge pas » comme un acte de résistance. Ils ne partent pas. Ils sont là.
Oui. Oui.
Ils ne désertent pas le plateau. Et il me semble que peut-être dans les années 50, 60, 70, 80, nous avions du mal...
Ils n'ont pas de syndicat non plus. Hein.
Oui, mais par exemple, peut-être tout simplement, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui nous sommes plus intelligents que jadis, mais par exemple, je prends un texte, l'innommable, qui est un texte contemporain de En attendant Godot, il se termine comment? Il se termine aussi par quelque chose d'analogue à En attendant Godot. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait si elle s'ouvre. Ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.
À un moment, Vladimir dit « je ne peux pas continuer ». Et il se reprend, il dit « qu'est-ce que j'ai dit ?» c'est la chose qu'il ne faut pas dire, parce que Vladimir est quand même la maman des deux. Il appelait ça Suzanne et moi. Clove et Ham dans Fin de partie, et Estragon et Vladimir, c'est Suzanne et moi. C'est sa femme et lui. Et la mère positive, c'est Vladimir, et le mec dépressif, Alzheimer, tout ça, c'est l'homme, quoi.
C'est Estragon.
C'est Beckett.
Alors, j'ai une question. Une part à la crème, notamment à l'université, quand on parle de Beckett et quand on essaie de dire deux, trois choses sur En attendant Godot. Généralement, tous les collègues et moi-même, nous insistons sur l'exigence de Beckett à l'endroit des didascalies.
Hein.
Oui. Le texte, il ne faut pas le toucher, mais les didascalies, surtout pas, c'est interdit, etc. etc. Bon. Et en lisant le dossier de presse qui accompagne votre spectacle, il me semble que si vous êtes autorisé des coupes dans le texte, vous êtes très respectueux des didascalies.
Totalement.
Et il me semble, c'est sur ce terrain-là que je voudrais vous lancer, que peut-être, à la différence d'autres metteurs en scène, vous accordez un prix beaucoup plus important à un temps silence et à la question des silences. Je pense qu'il y a chez vous comme un dosage. Un temps ne vaut pas un silence et que vraisemblablement, demain, à la représentation, on verra que ces silences sont relativement importants.
Un temps, c'est relativement bref. C'est une articulation bien posée entre deux phrases. Un silence, c'est le silence. Et il n'y a pas seulement silence. Il y a parfois long silence. Et une fois, il y a très long silence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en panne dans le théâtre habituel, dans le besoin que nous avons qu'il y ait de l'action, justement pour oublier qu'il y a d'abord le silence, que nous sommes du silence. Nous passons plus de temps en silence, chacune et chacun d'entre nous, qu'en parole. Et ces paroles crèvent le silence. Soit pour convaincre quelqu'un, soit pour entraîner quelqu'un, soit pour agir sur le monde. Exprimer quelque chose à quelqu'un, c'est toujours à quelqu'un. Et par exemple, ce serait très intéressant, je vous écoutais lire la fin de l'Innommable, on se rend bien compte. Contrairement à ce que beaucoup de lecteurs au départ n'ont pas vu, c'est que c'est une littérature orale. Il faut le dire pour le comprendre, l'Innommable ou Molloy. Et si vous le dites, tout d'un coup, la chose devient nécessaire et vivante. Alors que si vous le lisez en silence, au bout d'un moment, c'est très, très difficile que ça continue à sonner dans votre tête. Et c'est bien ça qui, moi, m'est arrivé dans pas mal de mises en scène de Godot que j'ai vues. C'était que mon cerveau s'éteignait au bout d'un moment parce qu'on ne tenait pas compte de mon existence de public. En plus, il se moque un peu du public aussi, hein, à part deux fois. Il parle du public, alors Estragon veut s'enfuir, alors il essaye à droite, il essaye à gauche, puis il essaye de s'enfuir dans le ciel, justement, ce ciel où il y a plein de petites particules quantiques dans notre décor. Et le gars lui dit, mais non, il n'y a rien par là, ça peut servir à rien de ce côté-là, va par là, il n'y a personne, et en désignant la salle. Et Estragon arrive devant la salle, s'arrête, et retourne dans le décor. Il dit, tu veux pas y aller ? Et Vladimir regarde la salle et fait, je te comprends. C'est-à-dire, rentrer dans la bouillie du monde, y a quelque chose d'autre à faire sur une scène de théâtre. Ben voilà.
Alors, je ne veux pas vous contredire, mais je me fais l'avocat du diable. Le silence... À bien des égards, Beckett et vous-même, en tant que metteur en scène de cette pièce, vous prenez un risque terrible, parce que le silence n'existe pas. Le silence, là, nous, il est tout relatif, il y a des bruits. Et si nous lassons l'assistance, les bruits vont augmenter. Donc, il y a un risque absolument terrible.
Oui, ben, non. Non, il n'y a pas de risque. Il faut faire confiance aux gens. C'est tout. Si les silences ont une justification, s'ils sont intelligents, s'il y a une vraie raison de les faire, au contraire, c'est ça qui relance la vitalité des petits morceaux de dialogue qu'il y a entre les silences. Un compositeur avait écrit à Beckett pour lui proposer de faire un petit opéra de chambre sur le texte, en attendant Godot. Beckett lui a répondu une longue lettre, très polie, très scrupuleuse et prudente. « Cher monsieur, ce serait un grand honneur, mais je crois vraiment que ce ne serait pas une bonne chose à faire que vous écriviez un poème symphonique sur ce qui que la pièce évoque pour vous. Très volontiers, j'en serais très honoré, mais vraiment, comment vous dire ?» Alors là, c'est là qu'il écrit au type « Voyez, c'est une pièce où le silence... est combattu en vain, j'espère, par les mots. » Et le silence est la matière première, c'est le texte. Le texte, c'est le silence. Et il y a une sorte d'infratexte ou de métatexte, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en linguistique, qui essaye désespérément de surnager, comme si le texte... Comme si le silence était la mer, par exemple, et que on sort la tête, on sort le nez, on sort les bras, et on fait encore quelques pas, c'est-à-dire on dit encore quelques mots, puisqu'il faut continuer. Ce que dit Günther Anders à un moment, c'est que ils n'attendent pas parce qu'ils sont là. Non, ils ne sont pas là parce qu'ils attendent. Ils attendent parce qu'ils sont là. Et nous attendons parce que nous sommes là. Voilà. Alors, il y a vraiment... Je pense que c'est... je ne sais pas si c'est une maladie spécifiquement française, mais cette horreur du silence, cette peur du silence au théâtre qui fait qu'on joue tout vite, bâclé, et que, évidemment, si vous ne marquez pas les silences, vous êtes obligé de produire des effets. Parce que l'effet principal, c'est que les mots, les attitudes humaines, les gestes crèvent le silence et le rien. Alors, si vous n'avez pas les silences, vous êtes obligé de faire des grimaces. Vous êtes obligé de gesticuler, d'aller plus vite, de grogner votre texte, etc. Et ça, c'est valable pour Edward Bond, pour Shakespeare, pour Molière, et tout ça. Il y a des didascalies par dizaines et par dizaines, et puis il n'y en a pas dans Shakespeare. Mais si, il y en a dans Shakespeare. Elles sont dans le texte des personnages. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas de décor du tout, dans le théâtre élisabétain, tout le décor est dans le texte. Si vous lisez une pièce de Shakespeare, au début de chaque scène, ça vous dit l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, l'espace dans lequel on est, le décor dans lequel on est. Il suffit de le lire. Mais que voulez-vous ? Il y a très peu de gens qui le lisent. Voilà.
Alors, je suis têtu, mais je me soigne. Ma question concernant le silence ne découle pas du fait que le silence m'effraie au théâtre ou au cinéma, en aucune façon, mais je crois savoir que Beckett s'intéressait, par exemple, à la musique de John Cage. Et John Cage disait qu'il avait été absolument bouleversé quand on l'avait invité dans une université américaine, je crois que c'est Harvard, à pénétrer dans une salle... construite pour annihiler tous les sons. Et là, il avait fait le constat qu'il percevait deux sons, un son très élevé et un son très bas. Le son très élevé, c'était le bruit de son système nerveux qu'il percevait, et le son très bas, celui de sa circulation sanguine. Et donc, on a des textes et des textes entiers de John Cage qui dit ben, « le silence ». C'est le bruit ambiant, y compris l'infrabruit que nous produisons. Et dans ma question, ce n'est pas une question de spectateur conventionnel qui a peur de trop longs silences sur scène, mais je me demande si ces silences voulus par Beckett ne permettent pas justement pour nous, spectateurs, d'ouïr et d'entendre le bruit du monde et le bruit de l'histoire. Dans la mesure où... Justement, mais il n'a pas...
Le bruit de votre inconscient, le bruit de votre cœur. Oui. Je pense que pendant les silences de la pièce, Je le sens, hein, quand je suis dans la salle. J'ai l'impression que les gens se sentent exister.
Ah oui.
Voilà. Et alors, j'ai une petite ruse. Ah, vous n'êtes pas trop nombreux par rapport à la totalité des gens qui vont voir le spectacle à Bordeaux, alors je peux vous le dire. C'est que y a certains silences dans le spectacle qui ne sont pas des silences. Et il y a des bruits infinitésimaux. Il y en a qui s'entendent peut-être un petit peu plus, mais il y a des bruits pendant des moments que vous n'entendrez pas. Mais quand il s'arrête, vous entendez qu'il y a du silence. Voilà. En lisant petit à petit la pièce, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose comme une matière de l'air dans l'espace de la scène, et que quand on retire cette matière, quand ça devient un trou noir, effectivement, là on entend qu'il n'y a plus rien. Alors que si le silence est uniforme, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Puis il y a ce moment extraordinairement poétique, alors qui est une allusion au troisième degré à ce qui s'est passé en 1900, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le nazisme. C'est le moment où Vladimir Estragon écoute les morts sous terre. C'est extraordinaire, c'est un moment bouleversant, enfin, c'est extraordinaire. Et c'est 5 minutes avant qu'ils se retrouvent eux-mêmes morts par terre. Enfin, morts vivants. Vous voyez la richesse de cette pièce que moi j'ai toujours vue et qu'on a toujours décrit trop comme une sorte de couloir monotone, noir. Au fond aussi, c'est peut-être la première fois qu'on fait, je ne dis pas un Godot en technicolor, mais un peu comme ça, avec aussi grâce à Chambas et grâce à Alain Poisson, l'éclairagiste, une suavité, une sensualité de ce qui vit encore sur le plateau. Je crois que ce que le gris, ce que Beckett appelle dans fin de partie « noir clair », ça n'arrive vraiment qu'avec fin de partie. Je pense que Molloy, par exemple, est un roman irlandais en couleur. C'est plus vers Joyce que ça va, vers ses prédécesseurs irlandais. Alors que fin de partie, c'est du dur. Comme au fond, il aurait dû écrire qu'une grande pièce. Il en a écrit une deuxième. Alors, il est obligé de forcer la dose sur un certain nombre de choses, parce qu'en fait, il écrit la même chose, d'une certaine façon. Mais Clove et Anne sont à la fois Estragon et Vladimir, et Pozzo et Lucky. Ils sont le maître et l'esclave, et le couple. Et ils sont hors temps, aussi, mais dans un intérieur.
Écoutez, monsieur, je pense que le public de ce soir ira, à partir de demain jusqu'à samedi, voir votre mise en scène. Et au nom de l'assistance, je vous remercie vivement pour votre générosité.